Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
On va jeter un coup d'œil sur ce qui retient l'attention dans les nouvelles. La nouvelle aujourd'hui, c'est à la une de tous les journaux, que ce soit ici, là, Devoir, Journal de Montréal, La Presse Plus, The Gazette, Globe and Mail. C'est le conflit entre Israël et le Hamas et les débordements que ça entraîne un peu partout dans le monde et particulièrement à Montréal. Bénédicte vient d'en parler, des coups de feu qui ont été tirés sur une école juive à Montréal. Et là, ça commence à déborder dans les universités aussi. Il y a eu cette histoire-là de cette confrontation entre des partisans des deux camps, l'Université Concordia, un peu plus tôt cette semaine. Là, il y a une vidéo qui circule depuis quelques heures, où on verrait sur la vidéo un professeur de l'Université de Montréal qui serait allé manifester à Concordia lors de cette échauffourée et qui aurait dit en arabe à une étudiante de nationalité juive « Go back to Poland, retourne en Pologne ». On sait là ce que ça signifie, c'est extrêmement grave comme commentaire, comme accusation. On identifie même le professeur en question, ce sera un chargé de cours, là, on n'est pas certain exactement de son mandat à l'Université de Montréal. On parle de Yaniz Arab, c'est ce qu'a indiqué Geneviève O'Meara, porte-parole de l'Université de Montréal. Ça a été filmé, cet échauffouré entre supporters d'Israël et de la Palestine. D'abord, de un, le fait qu'ils se rendent dans une autre université pour manifester. Là, Mme O'Meara a dit qu'on allait analyser les images pour évaluer la suite des choses. Monsieur Arab donne des cours de domination et résistance dans le monde arabe et sur son profil Facebook, on retrouve de nombreuses publications qui dénoncent les bombardements sur la bande de Gaza. Et comme je le disais, là, ça déborde dans les autres universités. À l'UQAM, entre autres, il y a des tracts qui ont été distribués, également des menaces qui ont été faites à l'endroit de professeurs et du recteur de l'université, qui a été traité de sioniste. Le sionisme, c'est un mouvement faisant référence au mouvement politique d'une partie du peuple juif visant à créer un État juif en Palestine. Des profs également à l'UQAM qui ont été visés par des tracts haineux qui ont été distribués. À l'Université McGill également, des affiches antisémites ont circulé sur les réseaux sociaux invitant la communauté étudiante de McGill à soutenir une manifestation pour Gaza. Et on a dénoncé, et ça a été dénoncé, pardon, par le principal et vice-chancelier de l'université. Alors, comme vous voyez, ça déborde. Et dans la rue, là, il y a des manifestations. Hier, il y en a eu une centaine de femmes qui sont descendues dans la rue. Ça s'est déroulé dans le calme, par contre. Mais il y en a d'autres qui sont prévues. Et d'ailleurs, on va parler à un porte-parole de la police de Montréal à ce sujet. Parce que là, d'abord, il y a une enquête qui a été ouverte, une plainte qui a été déposée contre Charkaoui en lien avec les propos qu'il a tenus plus tôt cette semaine lors d'une manifestation. L'enquête suit son cours actuellement. Mais là, on parle de Montréal, mais c'est partout dans le monde, c'est partout au Canada. Comme je vous le disais, là, c'est à la une d'à peu près tous les journaux. Et il faut le dire, ce sont particulièrement les lieux de culte, les écoles de juifs qui sont visés. Il y en a beaucoup plus que l'inverse, que des institutions, que des lieux de culte arabes. C'est vraiment, et il y avait des chiffres publiés cette semaine, là, c'est presque le triple des événements qui visent des écoles et des lieux de culte de la communauté juive. Alors, Reste à voir comment ça va se dire, ça va se poursuivre, mais disons que et on va en parler, pardon, avec Jean-François Lépine, parce que c'est vraiment un conflit. C'est rare que tu vois un conflit régional comme celui-là déborder sur la scène internationale, parce qu'on parle du Québec, mais c'est partout en France, en Europe, là, c'est partout. Je le disais hier, aux États-Unis, il y a des gens qui sont morts dans des altercations impliquant des gens des deux camps. Alors, hier, les premiers ministres Trudeau et Legault, qui participaient à une annonce à Longueuil, ont tenté de calmer les tensions, mais disons que ça semble pas vouloir ralentir pour l'instant. Alors, ce sera à suivre, cette histoire, mais disons que ça déborde, c'est très émotif. C'est vraiment, là, on parlait hier de la guerre en Ukraine, ça a provoqué des manifestations, mais jamais de cette ampleur. Jamais on a vu là des manifestations comme ça. Et c'est très émotif, vraiment. Là, ça vient chercher les gens aux tripes, ces histoires-là. Là, c'est vraiment du jamais vu. Puis on n'est pas habitué de voir ça ici, en plus. Sinon, dans les autres nouvelles, mais je le disais hier, le ministre Legault et le premier ministre Trudeau qui ont procédé à une annonce à Longueuil. Hier, 1,8 milliard qu'on va investir dans la construction de 8 000 logements. Évidemment, il va y avoir des logements là, à prix abordable là-dedans. En fait, c'est quelque chose qui avait été annoncé il y a quelques semaines déjà, mais là, on l'a fait de façon officielle hier à Longueuil. Il y avait entre autres la mairesse de Longueuil qui était présente. Et évidemment, là, c'est beau, on annonce un investissement de 1,8 milliard, mais le principal problème dans ce dossier-là, et la mairesse de Longueuil l'a avoué, c'est la bureaucratie. C'est long avant d'obtenir tous les permis, avant de pouvoir débloquer, avant de pouvoir commencer à construire. Et là, la ministre Duranceau, qui va être avec nous également ce matin, a dit qu'on allait permettre, là, on allait tenter de modifier la loi afin de permettre d'accélérer le processus là, de livraison des permis pour qu'on puisse construire des logements. Alors, elle sera avec nous pour nous expliquer un peu là, comment ça va fonctionner, parce que ça va s'appliquer évidemment partout au Québec. C'est sûr que Montréal, dans la région de Montréal, c'est la région qui est peut-être la plus touchée, mais les problèmes de logement, c'est partout au Québec, c'est en région, c'est à Québec, c'est à Sherbrooke, c'est à Trois-Rivières, c'est à Gatineau, c'est partout au Québec. Alors, elle sera là pour nous expliquer comment on va pouvoir procéder. On parlait de pénurie de logements tantôt et de l'annonce du gouvernement. Un peu dans la même veine, il y a la sous-gouverneure principale de la Banque du Canada, Caroline Rogers, qui donnait une conférence hier à Vancouver et qui a prévenu que les taux d'intérêt pourraient ne pas revenir au bas niveau auquel les gens étaient habitués avant la pandémie de COVID-19. Donc, en termes clairs, ça veut dire que les taux sont pas à la veille de baisser, ce qui est pas une très bonne nouvelle. Elle s'adressait à un groupe Adventist Vancouver hier et elle a indiqué que les changements structurels de l'économie mondiale, les niveaux plus élevés de dette publique pourraient forcer le maintien des taux d'intérêt à un niveau élevé. Et hier également, il y a Ottawa qui a annoncé que va présenter son énoncé économique le 21 novembre prochain. C'est la ministre fédérale Chrystia Freeland qui en a fait l'annonce. Évidemment, on est revenu hier sur l'affaire du tramway à Québec. Le maire de Québec, Bruno Marchand, a donné une conférence de presse. Et pendant ce temps, tous les partis d'opposition à Québec et même le gouvernement fédéral ont tiré à boulet rouge sur la CAQ. D'abord, à Ottawa, le ministre responsable de la région de Québec a indiqué que la CAQ avait saboté le projet en laissant entendre que l'argent du fédéral pourrait ne pas être au rendez-vous. Le fédéral a dit hier qu'on n'a jamais eu l'intention de se retirer de ce projet-là. Hier, le maire Marchand a dit, lui, que le projet, l'élément principal du projet remanié, là, ce serait pas des autobus. Alors, on va voir ce que la Caisse de dépôt va proposer, mais est-ce que ça sera un tramway? Est-ce que ce sera un métro? Parce que là, à un moment donné, à Québec, on se mettait à parler d'un métro également. Mais ça sera pas des autobus. Alors, faudra voir exactement. Et dans le cas de la Caisse de dépôt, il y a bien des gens qui s'interrogent sur le mandat qu'on a donné à la Caisse de dépôt en rappelant le REM de l'Est. Finalement, on a retiré le projet à la Caisse de dépôt. Est-ce que c'est le bon organisme pour faire des études là-dessus et remettre un rapport sur lequel on pourrait se fier? Ça, d'ailleurs, les rapports, tout le monde dit qu'il y en a en masse, il y en a une pile de rapports, qu'on n'en aurait pas besoin d'un autre. Et l'autre chose qu'on reproche à la Caisse de dépôt, disons, c'est l'intégration de son projet dans le décor urbain. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans l'ouest de la ville, là, mais les pylônes de ciment qui vont accueillir le REM, qui vont supporter les rails, on peut pas dire que c'est très, très esthétique, cela, là. Alors, c'est un peu ça qu'on reproche à la Caisse de dépôt. Puis on se demande, est-ce que c'est une bonne idée de confier les études, une nouvelle étude, à la Caisse de dépôt? Puis surtout que semble-t-il que toutes les études précédentes arrivent à la même conclusion, c'est que c'est un tramway que ça prend. Alors, faudra voir ce que la Caisse va proposer, ce qu'on va faire de ce rapport. Ottawa qui a déposé hier une loi anti-briseur de grève. C'est une première au niveau fédéral. Ça va toucher tous les employeurs qui relèvent du gouvernement fédéral. Et ça va même englober le télétravail également. Alors, bon, vous connaissez, au Québec, il y en a une loi anti-briseur de grève. On dit que celle du fédéral va aller encore plus loin que celle du Québec. Je sais pas si au Québec, ça englobe le télétravail. Je suis pas convaincu, là. Mais celle du fédéral va englober le travail à la maison, qui est de plus en plus populaire, on le sait, depuis la pandémie. Bernard Lemaire, cofondateur de Cascade, qui est décédé hier à l'âge de 87 ans. Lui, il a été un des pionniers de ce qu'on a appelé le Québec Inc. Et hier, j'écoutais les commentaires à son endroit. Là, c'est unanime. Ça a été un éloge de concert à l'endroit de Monsieur Lemaire, qu'on décrivait comme un visionnaire généreux et charismatique, un homme d'exception. C'est en 1960 qu'il a rejoint l'entreprise familiale. 3 ans plus tard, avec ses frères, il a fondé Papier Cascade, qui produit du papier à partir de fibres recyclées, a siégé sur de nombreux conseils d'administration. J'entendais un commentaire de Louis Garneau, entre autres l'homme d'affaires de Québec, qui a longtemps siégé et qui est encore peut-être sur le conseil d'administration de Cascade, qui n'avait que des... Écoute, ça a été un mentor pour lui, ça n'est pas caché. A toujours admiré Monsieur Lemaire, Bernard Lemaire, et ses frères également. Et hier, a rendu un vibrant hommage à cet homme d'affaires de 87 ans qui est décédé hier.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
Évidemment, bon, vous avez remarqué que hier et aujourd'hui, c'est moi qui anime l'émission. Les gens se demandent peut-être où est Paul. Eh bien, Paul est au bout du fil. Et on va lui parler ce matin. Salut Paul, comment ça va?
Ça va bien toi, Alain?
Moi, ça va bien. Écoute Paul, je sais pas trop par quel bout prendre ça, soit que je vais te laisser la parole, puis on va t'écouter.
Bon, d'abord, je te remercie, comme dirait Martin Saint-Louis, d'avoir pris la chaise. C'est le premier commentaire que je pourrais faire. Pour être très précis, en fait, je veux dire la vérité, mais pas nécessairement toute la vérité dans le sens suivant. D'abord, j'ai un enjeu de santé et je suis très protecteur de ma vie personnelle, ma vie privée, puis encore plus de mon dossier médical. Et donc, un enjeu de santé qui nécessite un traitement pour une durée indéterminée. Si je m'étais absenté pendant 2-3 jours, ben, j'aurais rien dit, puis ça aurait été correct, là. Mais ça risque d'être plus long et très sincèrement, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc, c'est une infection qui est assez fulgurante et qui a besoin de ce traitement-là. Et ce qui fait que je dois m'absenter pour cette période indéterminée. En gros, c'est ça. Et j'ai hésité un peu à en parler, mais en même temps, je me dis, on a développé avec les auditeurs cette relation-là depuis des années. Puis je peux pas m'absenter pendant X nombre de semaines sans rendre de compte, puis sans partir des rumeurs qui n'ont pas de bon sens. Fait que j'essaie de clarifier un certain nombre de points, puis en même temps, je demande aux gens de respecter ma vie privée. puis de respecter cette période-là là, qui m'attend pour les prochaines semaines.
Bon, je sais que tu l'as dit, tu es très protecteur de ta vie privée, mais là, évidemment, tu parles d'infection, de traitement, d'une durée indéterminée. Est-ce que tu peux nous parler de la gravité? Est-ce que t'es...
Non, je n'irai pas plus loin que ça parce que je ne le sais pas. Je sais qu'il y a un nombre X de semaines, mais sincèrement, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Tu sais, c'est... si je m'en occupe, tu sais, pour une fois que je m'occupe de moi, ben, je vais suivre les conseils. Puis, tu sais, j'ai tendance, puis peut-être comme beaucoup de gars de notre génération, à pas trop écouter les symptômes, à court-circuiter les périodes de convalescence. Des fois, c'est pas trop grave, mais d'autres fois, ça a un effet qui est pas nécessairement agréable. Tu sais, puis je vais prendre l'exemple de cette semaine, puis c'est un peu aussi pourquoi j'en parle. Puis on s'en est glissé un mot lundi. Tu sais, on revient d'un week-end, c'est agréable, puis tout ça. Tu te lèves le matin, bon, c'est sûr, c'est un horaire atypique, mais on était tous fatigués, puis on a échangé là-dessus, puis on s'est dit, ben, c'est le changement d'heure. Puis j'en parlais avec Bénédicte, mais en même temps, je me sentais très moyen. Puis là, après ça, bon, ben, tu retournes chez vous, tu te couches, tu te relèves le lendemain, je boye aux corneilles. J'ai pas la même acuité, je me sens pas la même habilité à travailler. J'haïs ça quand je me sens pas avec tous mes moyens. Puis ça a comme, descendu rapidement mercredi. Puis je le dis parce que, sans faire de leçons, là, puis pas non plus devenir hypochondriaque, mais quand vous avez des signes, vous avez intérêt à les écouter. Puis pour être bien franc, c'est Annick, ma femme, qui m'a dit, là, c'est assez niaisage, tu vas aller te faire soigner. Puis elle a eu parfaitement raison, parce que ça aurait pu déraper encore plus. Fait que, je vous dis juste ça comme ça, faites ce que vous voulez dans votre vie, mais moi, j'ai un peu trop tardé, peut-être, à prendre conscience de ça, même si on n'est plus, disons, sensible aux questions de santé, puis on répète tout le temps que la santé, c'est important, puis on va souhaiter bonheur, santé, prospérité. Mais tu fais partie, puis probablement toi aussi, là, d'une génération, on disait, OK, c'est pas plus grave que ça, on n'ira pas consulter, ça ne tente pas d'attendre, ça ne tente pas de ci, ça ne tente pas... Tu sais, mais il y a des fois où ça s'impose, puis on a intérêt à le faire.
Mais écoute, ça fait 25 ans que je travaille avec toi, puis bon, je te connais un peu. Travailler le matin, j'ai toujours dit, c'est comme rentrer dans une secte, ça, parce que c'est vraiment un horaire, là. Puis en plus de ça, ben, t'as toujours été tes documentaires. T'as jamais vraiment arrêté, en plus de travailler le matin, qui est déjà extrêmement demandant, là. T'sais.
Non, mais c'est sûr, mais c'est un choix. Il y a personne qui m'oblige à faire ça. Puis c'est... parce que ça me passionne, parce que ça m'intéresse, puis je vais continuer à en faire. Sauf que là, je fais une pause professionnelle pour des raisons de santé. C'est une pause professionnelle qui est à durée à déterminer. Puis dès que je vais pouvoir reprendre mes activités, je vais le faire. Là. Tu sais, honnêtement, je ne sais pas quand. Fait que je ne vais pas bullshiter puis vous dire ah ben c'est 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas. Mais dès que je vais le faire, je vais reprendre mes activités. Probablement que je vais en faire un peu moins. Probablement que je vais penser plus à moi comme personne, de dire j'ai besoin de ça dans la vie. Puis là, est-ce que vraiment je veux m'embarquer dans autant de projets? Peut-être pas, mais je suis pas quelqu'un qui va être inactif. Là, j'ai peur de m'arrêter. J'ai des projets pour après juin 2024. J'en ai même un peu trop. Peut-être va falloir que je fasse un tri, mais c'est ça que j'ai envie de
faire.
Pourtant,
t'es quelqu'un qui a pas peur de dire non.
Ben, sais-tu quoi? Des fois, j'hésite. Je suis meilleur que j'étais. Je suis meilleur que j'étais parce que tu reçois des propositions, puis tu fais « Ah, peut-être. » Puis là, tu dis « Ben non, ça rentre pas, je peux pas tout faire, tu sais. » Je suis un privilégié là, parce que j'ai des idées en plus, fait que mais je suis capable de dire non, mais pas tout le temps, puis je te jure que je vais apprendre à dire non encore plus. Avis aux intéressés.
Écoute, pour quelqu'un qui a toujours été actif comme toi, comment est le moral?
Très bien, surtout depuis hier soir.
Ah oui? OK. OK, je m'aperçois que...
Tu dis que Cole Caulfield a marqué en prolongation.
Écoute, veux-tu qu'on fasse jouer la chanson?
Écoute, c'est toi qui anime, hein, c'est pas moi.
On l'a fait jouer ce matin pour Catherine.
Ah, tu vois.
Pas sûr qu'on lui ait fait plaisir, par exemple.
Pour être très franc, c'est Ron qui m'a texté hier.
Ah oui?
Oui, qui m'a dit que Cole Caulfield, ce serait un as au tir au pigeon d'argile.
Ben écoute, Paul, on va te souhaiter de penser à toi, de bien te soigner, un prompt rétablissement. Et puis prends le temps que ça prendra, on va s'occuper de ça ici, puis quand tu seras prêt, ben tu reviendras, puis on va t'accueillir avec plaisir. On va te retrouver avec plaisir.
C'est très gentil. Je remercie les auditrices, les auditeurs de leur compréhension de respecter ma vie personnelle, ma vie privée. Puis je vous promets que je vais revenir le plus vite possible en feu pour terminer ce bail radio au mois de juin dans la folie, le sérieux. C'est un peu le délire.
Ben, c'est ce qu'on se souhaite. Paul, salut. Pense à toi, puis on se reparle.
C'est très gentil. Bye.
Salut. Bye. Bon, avant d'aller à notre prochain invité, pour compléter avec l'entrevue de Paul, vous dire que c'est Louis Lacroix qui va assurer la relève en l'absence de Paul. J'aurais bien aimé poursuivre l'aventure. J'adore ce que je fais. Mais j'ai des enjeux de hockey à RDS, alors vous comprendrez que ça devenait un petit peu compliqué pour moi. Alors finalement, c'est Louis qui va être là à compter de lundi jusqu'au retour de Paul. Bon, on en parle, c'est à la une d'à peu près tous les journaux au Canada, et on le voit ça, dans le monde, c'est ce qui se passe entre Israël et le Hamas a des répercussions un peu partout, des débordements un peu partout. On l'a vu à Montréal, des écoles juives qui ont été visées par des coups de feu. Il y a eu cette bousculade à l'Université Concordia, à McGill, à l'UQAM, des tracts qui ont été distribués. Alors là, il y a un appel au calme qui a été lancé par à peu près tous les paliers de gouvernement. Le premier ministre François Legault, Justin Trudeau hier qui était à Longueuil, ont fait la même chose. Alors pour en connaître davantage sur la suite des choses, on va accueillir Vincent Richer, le directeur adjoint au service de police de la ville de Montréal. Monsieur Richer, bonjour.
Bonjour.
Bon, M. Richer, d'abord, on va commencer avec Charles Caoui. Semble-t-il qu'il y a une plainte qui a été déposée. Il y a une enquête là en cours actuellement.
On est encore en analyse dans ce dossier-là avec nos partenaires procureurs pour voir en fait le seuil entre la liberté d'expression et le crime haineux. Donc, c'est une analyse qu'on poursuit présentement pour pouvoir voir c'est quoi la suite des choses dans ce dossier-là.
Parce que la ligne est fine, je pense, entre les deux, là.
Oui, c'est complexe, puis vous avez raison, la ligne est effectivement très fine. Donc, c'est pour ça qu'on analyse cette situation-là avec nos partenaires de la Couronne pour voir si légalement les paroles prononcées sont de matière de haineuse ou si jamais c'est dans un autre contexte, si jamais c'est légal, en fait.
Et notre collègue Jonathan Trudeau nous disait tantôt que le ministre Bonnardel avait convié la Sûreté du Québec et les gens de la police de Montréal pour élaborer un plan d'action, je pense.
Oui, on va se rencontrer aujourd'hui pour discuter ensemble. C'est sûr qu'au SPVM, on a mis en place un plan de visibilité qui était déjà présent au cours des dernières journées, des dernières semaines, mais on l'a rehaussé hier. Donc, on a dédié des effectifs pour être visibles dans les quartiers les plus touchés. On a fait ça en collaboration avec nos partenaires de la communauté pour voir c'était quoi les endroits qui étaient les plus vulnérables, c'était quand les moments aussi où la population avait besoin d'être rassurée. Donc, on a mis ça en place hier et ça va se poursuivre tout aussi longtemps que le besoin est là.
Comment ça va se manifester, cette augmentation des mesures de visibilité? Et à quel endroit, quels sont les endroits que vous allez viser en particulier?
Bien, ça se traduit par une présence accrue et aussi une présence de policiers qui ne répondent pas aux appels d'urgence. Donc, leur tâche spécifique, c'est d'être en visibilité. On utilise aussi des effectifs comme la patrouille à vélo, la cavalerie, nos groupes d'intervention qui vont aller sur le terrain puis qui vont être présents, visibles, au bon moment, au bon endroit, puis aux endroits qui sont identifiés comme étant le plus préoccupant pour la population. Donc, ces endroits ciblés, on les a identifiés avec la communauté, avec nos commandants de quartier, mais on peut penser aux endroits de culte, aux écoles. Donc, ça, c'est tous des endroits où on va être plus visible au niveau du SPVM.
Et vous êtes en mesure de confirmer, je pense, qu'il y a eu une augmentation des crimes haineux depuis le début de cette guerre Israël-Hamas le 7 octobre dernier, là.
Oui, il y a eu une augmentation des crimes haineux, puis on pense au SPVM qu'en fait, il y en a encore plus, que les gens ne dénoncent pas nécessairement les crimes et les incidents haineux. Alors, c'est important que la population dénonce ces événements-là pour nous permettre de prendre action, pour nous permettre aussi d'avoir un portrait juste de la situation. Puis dans le cadre des incidents haineux qu'on va enquêter aussi, ben on le fait avec une approche de prévention. Donc, quand on a identifié la personne qui a fait un incident haineux, on va la rencontrer, on va la sensibiliser à la situation. Puis comme ça, ben cette personne-là va pas basculer vers le crime haineux. Quand on parle avec notre équipe, je parlais avec un enquêteur qui est là depuis longtemps. Il dit, c'est juste arrivé une fois qu'il a revu la même personne d'un incident vers le crime haineux. Puis c'était plus des enjeux autres là, qui avaient poussé cette personne-là à aller vers les crimes haineux.
Je le disais, c'est partout dans le monde, les débordements au Québec et au Canada. C'est à la une d'à peu près tous les journaux ce matin au pays. Est-ce que vous avez des contacts avec les autres corps policiers pour savoir un peu comment on s'organise là-bas pour essayer de minimiser les dommages?
On est tout le temps en contact avec nos partenaires, surtout au niveau canadien, avec l'Association des chefs de police du Canada. Donc, on discute avec eux de différentes stratégies. Mais pour nous, le plus important, c'est vraiment au niveau local d'être en communication avec nos partenaires communautaires institutionnels pour voir avec eux comment qu'on peut adapter notre intervention, c'est quoi leurs préoccupations, puis c'est quoi leur implication aussi à eux comme organisme puis comme organisateur d'événements pour s'assurer que tout se déroule dans le calme puis tout se déroule aussi en respect aux différentes lois et règlements.
Savez-vous s'il y a des manifestations de prévues en fin de semaine?
Oui, on a des manifestations de prévues, mais j'ai pas les détails des événements qui sont à venir.
Bon, ben merci infiniment. En terminant, peut-être une dernière question. On a évoqué la possibilité d'interdire carrément les manifestations. Est-ce que ce serait une solution?
Ben c'est un droit constitutionnel. Donc,
ouais, c'est sûr
que c'est complexe d'interdire des manifestations. Ça a été c'est constitutionnellement permis. L'objectif de la manifestation, ben, c'est de le faire dans le calme, en respect des lois. Le SPVM, on accompagne les organisateurs pour que ça soit fait effectivement de cette manière-là. On est là pour intervenir quand il y a un débordement, mais si ça se fait de façon calme et respectueuse des lois et règlements, ben on va accompagner les gens pour s'assurer qu'ils puissent s'exprimer à ce moment-là.
Monsieur Richer, merci infiniment. Bonne journée.
Merci, au revoir.
Vincent Richer, directeur adjoint du service de la police de la Ville de Montréal, qui nous parle des débordements depuis quelques jours qu'on observe en lien avec ce conflit entre Israël et le Hamas.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan.
On a annoncé hier un investissement de 1,8 milliard de dollars pour la construction de 8000 logements au Québec. Le premier ministre Legault ainsi que Justin Trudeau en ont fait l'annonce à Longueuil. Il y avait la mairesse de Longueuil qui était là également. Et la ministre responsable de l'habitation, France-Hélène Duranceau, qui est avec nous ce matin. Madame Duranceau, bonjour.
Bonjour.
Bon, 1,8 milliard, ça veut dire 8000 logements. Concrètement, ça va fonctionner comment? Est-ce qu'il va y avoir des critères d'admissibilité? Qui va pouvoir profiter de cet argent-là?
Alors, on a au Québec, on a le programme là pour déployer la construction de logements sociaux et abordables. C'est le programme d'habitation abordable Québec. Et on a fait un appel à projet au mois de juin. On avait 1000 unités à déployer au mois de juin. Puis on a reçu plus de 140 projets qui représentent plus de 5000 unités recevables là, dans le cadre de ce programme-là. Donc, on a déjà beaucoup de demandes. On sait qu'on va être capable de déployer une portion du 8000 de cette façon-là. L'autre portion pourra être déployée avec les fonds fiscalisés. Vous savez qu'on a une entente avec Fonds d'action, avec le Fonds de solidarité et Desjardins pour nous aider à déployer plus rapidement des unités d'habitation partout sur le territoire du Québec. Et puis, on va aussi regarder des partenariats différents, innovants, avec des gens qui, d'un point de vue philanthropique, veulent redonner aussi des partenaires, des partenariats qui combineront communautaires et privés, mais tout ça dans une perspective de projets qui sortent rapidement. Pas des belles idées dont, dont on parle, auxquelles on pense pendant
des
années.
Parce que c'est souvent le cas. Alors, on fait des annonces, mais finalement, on voit jamais la couleur de la porte. Là. C'est...
Non, non, je vous assure, là, je répète à qui veut l'entendre, que là, le mot d'ordre, c'est exécution. Donc, si le programme fonctionne pas, il est encore jeune, le programme, on a eu des critiques, il est encore perfectible, sans doute. Si des choses ne fonctionnent pas, le mot d'ordre, c'est vous remontez ça plus haut, puis on va trouver une solution. On veut que ça fonctionne. C'est plus là le temps d'attendre que la prochaine révision du programme. En cours de route, on ajustera à chaque fois qu'il y aura des difficultés parce qu'il faut que ça sorte.
Mais le principal reproche que les promoteurs vont avoir, c'est la bureaucratie. C'est long avoir les permis, ça finit pas de débloquer. Puis finalement, il y en a beaucoup qui se découragent et puis qui abandonnent carrément. Là. On parle des fois en termes de mois et même d'années avant d'obtenir toutes les autorisations. Là.
Ouais, vous faites bien de le souligner. Quand on parle du 1,8 milliard, on parle de logements sociaux abordables, là où le gouvernement doit intervenir. Par ailleurs, le secteur privé est capable de produire beaucoup de logements. Ils l'ont toujours fait, des logements de tout type.
Et c'est rarement des logements abordables.
Non, non, mais tout à fait. Sauf qu'on a besoin vraiment de tous les types de logements pour qu'il y ait un effet domino puis que chacun puisse poursuivre là, son parcours résidentiel. Et effectivement, les développeurs se heurtent à une bureaucratie puis une peur d'avoir peur dans les administrations municipales, le pas dans ma cour à l'égard de certains projets. Donc, d'où l'importance des amendements qui ont été déposés dans le cadre du projet de loi 31 là, que je chapeaute, où on vient donner aux villes le pouvoir de déroger à leur réglementation municipale et d'appuyer des projets d'habitation, de logement social, de logement abordable, mais aussi tout autre type d'habitation. Alors là, les municipalités auront vraiment... Souvent, les élus sont pleins de bonne volonté, mais ont des administrations qui ont leur façon de faire et qui sont prises dans un cadre réglementaire qui s'est accumulé, si on veut, au fil des années. Là, on dit pour une période de 5 ans, super pouvoir aux villes, vous êtes en mesure de faire débloquer les projets. Puis c'est ce que tous les constructeurs nous disent. La PCHQ, il y a une semaine ou deux, mentionnait qu'il y a plus de 50 000 unités d'habitation qui sont bloquées partout au Québec. Écoutez, c'est ça qu'il faut qu'ils débloquent puis qu'ils soient en chantier pour aider de manière vraiment tangible la crise du logement. Alors là, les villes vont avoir les pouvoirs, puis on espère qu'ils vont s'en servir. Et je pense que ça va être une excellente mesure. Là. Parce que évidemment, si elle va de l'avant, si elle est approuvée dans le cadre du projet de loi. Là.
Parce que la mairesse de Longueuil qui assistait à la conférence de presse hier a été la première à s'en plaindre là, de toute la bureaucratie qui... Là, est-ce que ça s'adresse à la construction de logements neufs? Est-ce qu'il y a de l'argent, pour exemple, rénover un édifice déjà existant qu'on pourrait transformer je pense, par exemple, à Québécois là, qui a annoncé qu'il allait vendre l'édifice sur Maisonneuve, le transformer en...
Ça me fera plaisir d'avoir les discussions avec eux si effectivement, ils veulent se départir de cet édifice-là. Mais je vous dirais qu'au niveau des édifices à bureaux, des fois, c'est une fausse bonne idée. Il y a très peu d'édifices à bureaux à Montréal que l'on pourrait convertir en unité d'habitation de manière... sans que ça coûte trop cher. Parce que les cages d'ascenseurs, toute la plomberie dans ces immeubles-là n'est pas distribuée comme s'il y avait de l'habitation dans l'immeuble. Alors, c'est très, très coûteux. La ville de Calgary avait un programme pour favoriser la conversion d'immeubles dans sa ville. Il donnait 175 $ du pied carré. C'est monstrueux là comme aide financière. Alors, je crois pas pour ce type de projet-là, le gouvernement doit nécessairement s'impliquer. Ça va être des projets privés. Évidemment, le coût des logements qui serait construit à ce moment-là vont être plus élevés, mais ça correspondra aux besoins d'une certaine clientèle. Je pense que nous, on va s'occuper de ce qu'on a à sortir.
Est-ce que le 1,8 milliard, comment il va être réparti à travers la province? C'est sûr que Montréal, probablement, a de plus gros enjeux, mais on le voit, la crise du logement, ça touche toutes les régions du Québec et, bon, les villes Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, mais les régions encore un peu plus éloignées aussi.
Oui, tout à fait. Effectivement, la crise, elle est partout. Donc, effectivement, il y a une répartition régionale qui va être prise en compte en fonction des besoins. Là, on a ces chiffres-là à la Société d'habitation du Québec. Mais parallèlement, là, ou de manière concomitante, je vous dirais qu'il va falloir que ça soit des projets prêts à partir. Il n'est aucunement question de bloquer de l'argent ou d'attribuer de l'argent à quelqu'un si l'appel n'est pas dentaire l'année prochaine. Là. Alors, ça va être vraiment ça la priorité.
OK, il faut que tu arrives avec les plans, tout.
Ben, il faut être assez loin dans l'exécution du projet parce que ça a
pas
été...
construire peut-être.
C'est une
peut-être.
Bonne idée, on a besoin de ça, on va en jaser. Non, tu es prêt ou tu n'es pas prêt. Si tu n'es pas prêt, ben, tu reviendras l'année prochaine, on va trouver une autre solution. Alors là, il faut vraiment qu'on soit, comme je vous ai dit, en mode exécution. Donc, prête à partir, puis aussi des municipalités qui auront à planir toutes les difficultés. Le promoteur, quand il commence, il y aura pas d'autres difficultés que celles qu'il a déjà eues.
Et à partir de quand les municipalités pourront essayer de faciliter les choses?
Ben là, il va falloir... D'abord, elles peuvent déjà commencer à faciliter les choses. Il y aura un bout du travail de fait. Le super pouvoir dont je vous parle, c'est à l'intérieur du projet de loi 31 qui est en étude détaillée présentement et que j'espère faire adopter avant les fêtes. Évidemment, ça va prendre la collaboration de tout le monde autour de la table, mais on y travaille.
OK. Ça veut dire que ceux qui se lèvent ce matin et qui voient ça et disent « je vais me mettre à construire des logements », là, c'est pas ça. Faut déjà avoir déposé un projet là à la municipalité pour être admis.
Il faudra avoir déposé le projet dans le cadre de l'appel à projet du programme d'habitation abordable Québec ou avoir des bonnes idées prêtes à partir. Puis, comme je vous disais, il y aura d'autres partenaires à travers les fonds fiscalisés, puis d'autres partenaires qui nous parlent déjà puis qui ont des idées puis qui ont des choses prêtes à partir. Alors, on va s'asseoir avec eux. Puis, faut que l'intervention soit massive. Alors, des gros projets, là.
OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui est en vue ou qui peut être fait pour essayer de régler cette crise-là?
Écoutez, ça, c'est l'augmentation de l'offre, c'est la base. Il y a une autre mesure dans le projet de loi qui vise le logement accessoire. Donc ça vise à permettre sur l'ensemble du territoire québécois aux gens d'ajouter un logement à leur maison existante.
Ouais.
Donc là aussi, évidemment, ce sera pas tout le monde qui fera ça, mais d'office, ce droit-là sera disponible sur l'ensemble du territoire. Donc, possible de subdiviser un bâtiment existant ou d'y ajouter...
Transformer un garage,
ça rentrerait là-dedans, effectivement. Donc là, d'office, tout le monde aura le droit de faire ça. Les municipalités qui ne souhaitent pas que ce soit fait sur leur territoire devront s'exclure de ce droit-là. Et on pense que là aussi, ça donne une opportunité. Puis les gens, évidemment, ça aussi, c'est dans le projet de loi. Donc les gens seraient au courant de ça dès décembre puis pourraient planifier des travaux pour l'été prochain là, ou pour le printemps.
Madame Duranceau, merci infiniment de votre visite ce matin.
Ça me fait bien plaisir, merci.
Francine Duranceau, ministre responsable de l'habitation, qui nous parlait de cette annonce qui a été faite hier, 1,8 milliard de dollars qui sera versé pour la construction de 8000 logements.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Bon, on revient sur ce conflit entre Israël et le Hamas. On va parler à la journaliste Clotilde Maravko, qui est journaliste indépendante basée à Ramallah, en Cisjordanie. Bonjour, madame.
Bonjour.
Bon, d'abord, parlez-nous un peu, là. Il y a eu de nouvelles frappes au cours des dernières heures sur un complexe hospitalier de la bande de Gaza.
Oui, les bombardements ont touché l'hôpital Al-Shifa, qui est situé au centre de la bande de Gaza, dans la ville de Gaza. C'est le plus grand complexe hospitalier de l'enclave. C'est lui qui reçoit notamment toutes les urgences les plus graves depuis le début de l'offensive dans le nord de l'enclave. Alors, ça fait plusieurs jours que les Israéliens disent qu'ils visent l'hôpital Al-Shifa. Il y avait déjà eu une frappe la semaine dernière. Ils affirment que le Hamas cacherait un centre opérationnel dans les sous-sols de l'hôpital, en dessous du complexe. Alors, ce que évidemment le mouvement islamiste palestinien dément, le Hamas qui par ailleurs fait état de 13 personnes qui auraient été tuées déjà par cette frappe. L'AFP rapporte notamment qu'un de ses journalistes a vu au moins 7 corps sur place.
Bon, hier on a appris qu'Israël allait faire des pauses humanitaires. On parle pas de trêve, là. Pause humanitaire. Comment ça a été accueilli? Et parlez-nous de l'exil, parce qu'on a vu des images là, de gens qui fuyaient vers le sud de la bande de Gaza.
Oui, effectivement. Alors, depuis l'invasion terrestre, les militaires israéliens avaient coupé, en fait, ont coupé la bande de Gaza en deux. Donc, les chars, en fait, créent une espèce de checkpoint au milieu de la bande de Gaza. Et on a vu les images, hein, depuis mercredi, il y aurait 100 000 personnes qui auraient traversé du nord vers le sud pour aller se réfugier. Alors, on voit ces images qui sont un peu saisissantes avec des gens qui sont à pied, des femmes, des enfants. Et qui lèvent les bras ou qui agitent des drapeaux blancs pour bien montrer qu'ils ne sont pas des combattants. C'est des conditions difficiles parce que même si on parle de corridors humanitaires et de pauses, en fait, les combats sont persistants et les gens à Gaza rapportent qu'ils continuent d'être visés. Et puis surtout, il n'y a pas beaucoup de place en fait dans le sud pour les accueillir. Il faut s'imaginer en quelque sorte que la population de Gaza et plus de la moitié de la population de Gaza est actuellement réfugiée sur la moitié du territoire.
Bon, et quelle est la situation humanitaire actuellement à Gaza?
Alors c'est très compliqué parce que depuis le 9 octobre, Israël impose un siège complet à Gaza, en plus des bombardements qui sont incessants et qui ont donc fait de nombreux blessés et plus de 10 800 morts selon les chiffres du ministère de la Santé palestinien. Le siège est en train de produire des effets effroyables puisque l'aide humanitaire est rentrée depuis fin octobre, mais elle ne rentre pas en quantité suffisante. Et là, les témoignages qu'on reçoit de Gaza, ce sont des gens qui passent des journées entières en fait, à chercher de l'eau ou ne serait-ce qu'un peu de nourriture. Les étalages des supermarchés sont vides. Il n'y a plus de carburant puisque l'essence et les carburants ne peuvent pas rentrer dans l'enclave du fait d'une interdiction israélienne. Et donc, on sent que les gens sont à bout. Il y a une crainte aussi des épidémies qui puissent se développer puisque les gens n'ont pas assez d'accès à l'eau en fait, pour pouvoir se laver, pour pouvoir entretenir des conditions sanitaires suffisantes et décentes.
Et on va parler de la pression de l'extrême droite, pas de cessez-le-feu en vue, mais est-ce qu'on réussit quand même à atteindre certains objectifs militaires?
Mais en fait, c'est ça la grande question, c'est que l'opération est d'une ampleur inédite avec des bombardements intensifs, mais aussi une opération terrestre. Des journalistes ont pu pénétrer dans la bande de Gaza et ils ont pu voir, en fait, on voit sur les photos qu'ils ont rapportées que tout le nord de la bande de Gaza est complètement détruit, les habitations sont quasiment rasées. Et en même temps, on n'a pas d'annonce vraiment forte d'objectifs militaires qui seraient atteints. Pour l'instant, l'armée israélienne progresse à l'intérieur de la ville de Gaza et les appels se multiplient dans la communauté internationale pour avoir un vrai cessez-le-feu parce que la situation humanitaire, comme on l'a dit, est vraiment très compliquée. Mais en Israël, il n'en est pas question. Le premier ministre Benjamin Netanyahou est tiraillé, vous l'avez dit, par l'extrême droite qui ne veut même pas entendre parler de trêve humanitaire. Et en même temps, on voit sur le terrain que l'armée israélienne n'a pas annoncé grand-chose. On ne sait même pas exactement quels sont ses objectifs militaires puisque l'objectif global est d'éliminer le Hamas. Mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup de chefs de la branche militaire qui ont été annoncés avoir été tués.
Madame Ravko, merci infiniment.
Merci à vous.
Bonne journée. On va poursuivre en parlant d'un dossier qui sera publié dans la presse plus demain par le journaliste Tristan Péloquin. Ça concerne la vente d'armes à feu non enregistrées sur Facebook. Semble-t-il que c'est assez facile de se procurer une arme à feu. D'ailleurs, Tristan Péloquin en a fait l'expérience lui-même. On le rejoint à l'instant. Tristan Péloquin, bonjour.
Salut Alain.
Écoute, c'est sur Facebook. Et là, on parle pas du dark web, je pense, là, de ce que j'ai pu comprendre, là.
Non, tout à fait, c'est un site privé, si on veut, que moi je fréquentais là, depuis vraiment quelques années. Ça fait quelques années que je m'intéresse aux armes à feu, à la culture des armes à feu. Je possède moi-même un permis de possession et acquisition d'armes à feu, donc je peux posséder des armes à feu. Et en suivant ce groupe Facebook-là, j'ai commencé à voir apparaître au cours de l'été plusieurs annonces là, pour des armes à feu, souvent de type militaire. Là, on va publier demain plusieurs photos là, dans la presse là, du type d'arme qui était vendue, là, c'est pas le fusil de chasse à grand-papa, là. On parle d'armes qui ont vraiment une apparence militaire, qui sont des armes semi-automatiques, qui ont souvent des conceptions faites pour la guerre initialement, mais qui tirent pas de rafales. Et moi, j'ai décidé donc de répondre à une de ces annonces-là et d'aller acheter une arme à feu. Donc, je me suis rendu à Rimouski pour l'acheter. Et puis là, ben, une fois qu'on l'a acheté, on a constaté qu'il y a eu vraiment beaucoup de violations aux lois là, dans la façon dont la transaction s'est passée.
Et ce qui est assez fascinant, c'est que tout fonctionne par code quand tu veux acheter une arme à feu, là.
Effectivement, sur ces sites-là, Facebook tolère pas là, que les gens vendent des armes à feu, des munitions, des explosifs. C'est pas permis par la politique d'utilisation de Facebook. Alors, les gens utilisent un code. Dans ce cas-là, ils disent, bon, arme à dépoussiérer, c'est un peu le code qui est utilisé, et on donne un autre code pour les prix. Moi, ce qu'on me dit, c'est que ce n'est pas le seul site où on trouve ce genre d'armes à feu à vendre là sous des codes semblables. Mais reste que à force d'en observer, de voir, on finit par comprendre qu'effectivement, derrière le code caché, là, ce sont des petites annonces, un petit marketplace des armes à feu là, pour les gens qui possèdent un permis d'acquisition peuvent les acheter, mais les vérifications qui sont faites là, lors des transactions sont relativement faibles, donc on peut spéculer sur qui peut acheter ces armes-là.
Et ce sont des armes que l'on dit non contaminées. Ça veut dire qu'ils sont pas enregistrés, il n'y a pas de difficilement retraçable, si je comprends bien.
Mais effectivement, Alain, comme on sait, il y a un registre québécois des armes d'épaule hein, depuis 2018 qui a remplacé le défunt registre fédéral. Il y a une certaine frange des propriétaires d'armes à feu qui refusent d'enregistrer leurs armes-là. Il y a eu un groupe qui s'appelait Tous contre un registre là, qui les incitait à ne pas enregistrer leurs armes. Et beaucoup le font pour des raisons complètement idéologiques, par peur du gouvernement, mais aussi, moi, je pense, parce que bon, il y a tout le discours américain pro-armes à feu sur le deuxième amendement qui dit que bon, qui encourage les gens là à avoir des armes à feu pour se protéger contre l'État. Mais aussi, il y a une autre réalité, c'est que les armes, semble-t-il, qui sont enregistrées dans le registre provincial perdent une certaine valeur là, selon ces personnes-là, donc une valeur monétaire, donc ils préfèrent les garder à l'extérieur du registre, ne jamais les enregistrer. Et c'est le cas de l'arme que moi j'ai acheté dans le cadre de cette enquête-là. Là, l'arme n'était pas enregistrée dans le registre.
Et semble-t-il qu'on peut trouver à peu près n'importe quoi, des pistolets, des vestes par balles, à peu près n'importe quoi qui a un lien avec les armes à feu, là.
Effectivement, moi j'ai vu passer des vestes par balles à vendre, beaucoup de munitions. J'ai vu des pistolets. En fait, les pistolets, c'est très, très contrôlé au Canada. C'est difficile d'acheter un pistolet. Il y a une interdiction en ce moment de les acheter là, qui a été décrétée par le gouvernement Trudeau. Mais j'ai vu deux annonces pour des pistolets qui sont des antiquités. Et là, les gens spéculaient un peu sur le groupe Facebook, à savoir est-ce qu'on peut vendre une antiquité, est-ce que ça échappe à la réglementation sévère qui entoure les pistolets. Puis là, je sais pas si l'arme a été vendue, mais j'ai vu passer cette annonce-là et je dois dire que j'ai été surpris en la voyant. Beaucoup de gens ont été surpris parce que normalement, donc c'est vraiment très, très contrôlé, la vente de pistolets. Tu sais, ça contrôle. Le gouvernement veut même, là, quand vous avez un pistolet, il faut aller au champ de tir. Bon, il faut qu'on dise c'est quoi le chemin qu'on va utiliser pour aller au champ de tir tellement que c'est contrôlé. Et là, d'avoir un apparaître sur un de ces groupes-là, moi, ça m'a vraiment surpris. Là.
Bon, là, Tristan, la question que tout le monde va se poser, si monsieur, madame, tout le monde peuvent acheter une arme sur Facebook, comment ça que la police ou le gouvernement intervient pas?
Ouais, c'est la bonne question. C'est ça. C'est ce qu'on a voulu démontrer, en fait, hein. C'est que il y a une forme de laxisme dans l'application des lois. Là, moi, je veux rassurer les gens. Tu sais, jusqu'à preuve du contraire, ça prend un permis de possession et d'acquisition pour acheter ces armes-là. Mais tu sais, il y a un tel laxisme sur l'application notamment du registre, aussi sur les transferts d'armes d'une personne à l'autre. Ça devrait être contrôlé davantage par la GRC. Il faut demander des permissions avant de faire la transaction. Et visiblement, ça ne se fait pas. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments qui sont probablement inquiétants, hein, effectivement, qui méritent d'être soulevés. Nous autres, on a posé des questions au ministère de la Sécurité publique, à la GRC. On a des réponses, mais qui sont assez laconiques. En fait, moi, le ministère de la Sécurité publique me disait que c'était un phénomène un peu marginal. Hein. Les ventes entre individus, c'est pas la majorité des ventes d'armes à feu. Pourtant, ça représente quelque chose comme 35 000 transactions par année. Moi, d'après les calculs que je fais, il y aurait peut-être 10 000 armes à feu qui se vendent entre individus, qui échappent au registre provincial des armes d'épaule, donc qui passent des transactions sous-marines, d'une certaine façon, qui passent inaperçues. Donc, c'est quand même un nombre assez important d'armes à feu là, qui circulent comme ça des mains d'une personne à l'autre.
Et on s'entend pour dire que ce sont des armes qui ont traversé la frontière illégalement, là.
Pas dans tous les cas. Hein. Beaucoup de ces armes-là sont à la base illégales. Elles proviennent de fournisseurs officiels. L'arme que j'ai achetée, moi, c'est une carabine SKS qui est quand même très connue des propriétaires d'armes à feu. C'est une vieille carabine de guerre russe qui provient des dépôts, vraiment des dépôts russes. Là. Il y en avait des milliers et des milliers qui sont rentrés au Canada, qui ont été importés en toute légalité. Et finalement qui sont revendus dans des commerces, mais là après les gens les échangent entre eux. C'est pas une arme banale du tout là. C'est une arme semi-automatique très dangereuse, c'est-à-dire le même calibre que les AK-47. Et la plupart des autres armes là, que moi j'ai vu à vendre sur ce site-là, là, c'était des armes qui ont été importées légalement au Canada, mais après les gens les vendre en contournant les règles qui ont été imposées et par le fédéral et par le provincial.
Alors, c'est à lire demain dans la presse plus ce dossier sur la vente d'armes à feu sur Facebook par Tristan Péloquin. Merci beaucoup, Tristan.
Merci, Alain.
Bonne journée. Alors voilà Tristan Péloquin qui nous parlait de ce dossier de vente d'armes-là. On va complètement changer de registre. On va parler de champignons magiques. Mais habituellement, quand on pense à champignons magiques, vous allez voir qu'on pense pas nécessairement à ce que l'on va apprendre. On va parler à la docteure Vanessa Michaud, psychologue au service des troubles anxieux et de l'humeur au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Docteur Michaud, bonjour.
Bonjour, M. Crête.
Vous faites partie d'une équipe, l'équipe du psychiatre André Do, qui propose ce nouveau traitement. Comme je le disais, quand on parle de champignons magiques, habituellement, on pense à un paquet de choses, pas nécessairement aux troubles anxieux de l'humeur.
Oui, tout à fait. En fait, dans notre contexte, on appelle ça la thérapie assistée par la psilocybine. Donc, la psilocybine, c'est la molécule active principale des champignons magiques. Et elle est approuvée par Santé Canada pour certains contextes, donc pour la dépression réfractaire et la dépression de fin de vie depuis janvier 2022. Donc, elle est manufacturée par un fournisseur qui collabore avec Santé Canada et qui va nous la fournir sous la forme d'une capsule de psilocybine pure.
Bon, là, on parle, évidemment, c'est dans le cadre d'un traitement expérimental pour des cas rares et exceptionnels. Allez pas à la pharmacie pour vous trouver ça, là.
Tout à fait. En fait, dans notre contexte, quand on parle de dépression réfractaire, ce sont des patients qui ont eu au moins deux échecs d'antidépresseurs. Mais dans notre contexte, ce sont plutôt des patients ayant une dépression qu'on peut dire ultra réfractaire, donc qui ont connu plusieurs échecs pharmacologiques, qui ont eu des suivis en psychothérapie et qui ont essayé aussi plusieurs options de traitement, par exemple la stimulation magnétique transcrânienne, la kétamine et même dans certains cas les électrochocs. Donc ce sont des patients qui vont être ciblés par leur psychiatre traitant qui réfère par la suite à un psychiatre consultant de notre comité pour une rencontre d'éligibilité afin d'évaluer les critères d'inclusion et d'exclusion. Donc on a quand même certains critères d'exclusion, par exemple un historique personnel de psychose, un risque suicidaire élevé, une alliance thérapeutique précaire. Donc c'est sûr que c'est fait dans un contexte qui est très sécuritaire, le traitement.
Comment on en est venu à faire le lien entre les champignons magiques et le traitement des troubles anxieux?
C'est-à-dire que, étant donné que les patients avaient connu plusieurs échecs au niveau des autres traitements, on avait un souci de pouvoir leur offrir cette nouvelle avenue-là thérapeutique. Puis, la raison pour laquelle Santé Canada l'approuve depuis janvier 2022, c'est qu'il y avait un bassin suffisamment important d'études en dépression. Donc, on parle d'un taux de réponse d'environ 40 à 60 selon les études les plus récentes pour une seule forte dose de psilocybine. Donc, c'est quand même pas négligeable. Puis la raison pour laquelle c'est pertinent dans notre contexte pour nos patients, c'est que en dépression réfractaire, les patients ont souvent une grande rigidité psychologique. Puis un des bénéfices possibles de la psilocybine, c'est d'améliorer la souplesse cognitive. Puis on sait que la souplesse cognitive est très corrélée au bien-être psychologique. Elle peut permettre aussi d'améliorer le contact avec les émotions versus les antidépresseurs qui régulent à la baisse. Donc, dans ce contexte-là, ça peut être très intéressant pour nos patients.
Bon, là, ça demeure expérimental. Est-ce qu'on peut penser qu'un jour, ça va être ouvert à beaucoup plus de patients?
Oui, je pense que c'est appelé à s'élargir en fonction des données probantes. C'est sûr que la recherche sur les psychédéliques, la thérapie psychédélique en ce moment est en augmentation de façon exponentielle. Donc, c'est sûr que nous, on va s'adapter selon... On reste très très au courant des recherches, là, donc on va s'adapter selon l'avancement de la recherche. Mais oui, ça pourrait être appelé à s'élargir, c'est certain.
Ben, Dr Michaud, merci infiniment de ces informations.
Ben, merci à vous.
Merci, bonne journée. Dr Vanessa Michaud, psychologue au service des troubles anxieux et de l'humeur du CIUS de l'Est de l'île de Montréal.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.